Chapitre 4. Ofnig ne se trompait pas sur les sentiments du prince à son égard. N'ayant toujours rencontré que la plus servile complaisance, Vladimir ressentait une violente indignation de l'obstacle que ce pauvre air, cet ancien serf, osait essayer de lui opposer. Aussi, dès le lendemain matin, fit-il appeler le forestier chef pour lui ordonner de signifier à Nicolas Ofnig son expulsion. « Qu'il parte dans 2 jours, tu installeras aussitôt quelqu'un d'autre à sa place. » Le forestier chef ne put complètement dissimuler sa stupéfaction devant ce brusque congé donné à un vieux serviteur irréprochable. Mais il n'osa élever la voix en sa faveur, sachant par ouï dire que le maître ne supportait pas la plus légère objection à ses ordres. Au cours du déjeuner, Vladimir dit à son hôte « Décidément, vous voulez toujours partir après-demain ?»« Mais oui, monseigneur, mon père m'attend et il serait vraiment trop désappointé si je tardais davantage. » »« Je ne puis insister pour vous retenir en ce cas. Il est probable, quant à moi, que je demeurerai encore 8 à 10 jours ici, car ce vieux Stanitsa me plaît infiniment et j'y ferai une petite cure de solitude. » Aubert dit en souriant « Je crois qu'il inspire votre Altesse en tant que musicien. Vous trouvez ? Oui, c'est possible. L'esprit, ici, prend un bain de silence et de fraîcheur. C'est une sorte de retraite en pleine forêt. Je reconnais d'ailleurs ne pas m'être ennuyé un seul instant. Mais je le dois certainement en grande partie à votre présence, mon cher Creuilly. » Il n'avait cessé de se montrer fort aimable pour le jeune officier. Celui-ci se disait qu'il n'emporterait de Stanitsa que d'excellents souvenirs, en même temps qu'une plus vive admiration pour le charmeur qui était décidément son hôte. Le lendemain, veille de son départ, il accompagna le prince dans une longue promenade à cheval. Vladimir, distrait, causait peu. Il songeait à la jeune pensionnaire d'Ofnik. Le vieillard s'était fortement troublé quand il avait parlé de ses papiers qui, au dire de Straitnov, n'existaient pas. Ainsi donc, il tenait par là cette inconnue, menacée de voir la police chercher d'où elle venait, qui elle était. Au reste, quoi qu'il en fût, elle ne lui échapperait pas, Ofnik et sa cousine devant être écartées avec autant de facilité qu'une pierre du chemin. Les deux cavaliers revenaient au trot dans l'ombre humide de la forêt. Il avait plu la nuit précédente et l'eau s'écoulait le long des feuilles sur le sol boueux. Devant les chevaux bondissait Yamil. Parfois, il disparaissait dans les sous-bois en une course folle qui le grisait. Puis il revenait, multipliant les bonds souples autour du cheval de son maître en levant sur celui-ci des yeux de fauve qui exprimaient un attachement farouche. Il avait disparu de nouveau depuis quelques moments quand s'élevèrent, à une courte distance, des grondements d'abord, puis des hurlements de colère et de douleur. Vladimir dit sans s'émouvoir « Yamil corrige un de ses congénères, dont probablement la tête lui déplaisait. Il pourrait quelque jour rencontrer plus fort que lui. Plus fort, je ne crois pas, mais enfin, allons voir. » Il fit bondir son cheval et atteignit dans quelques secondes la clairière où s'élevait la maison d'Ofnik. Yamil tenait sous lui le griffon et le roulait, le mordait avec rage. Sur le seuil venait d'apparaître Ofnik qui s'élançait vers les combattants. Le prince appela « Yamil, ici !» Le chien lâcha aussitôt sa victime et vint à son maître. Sur l'herbe de la clairière, le griffon resta étendu, ses bons yeux implorants tournés vers Ofnik. Vladimir s'écria d'un ton de colère « Ton affreuse bête a déchiré l'oreille de mon chien. Attends, je vais t'apprendre à avoir un animal pareil. Va chercher ton fusil et tue-le à l'instant devant moi. » Le garde eut un haut-le-corps. « Le tuer ? Tuer mon chien parce qu'il s'est défendu ? Oh, Altesse ! Tu oses discuter ? Obéis-moi à l'instant, te dis-je. » Le griffon venait de se soulever péniblement pour se mettre sur son train de derrière. Le sang coulait sur son pelage gris, et il continuait de regarder son maître avec des yeux de tendresse souffrante. Ofnik dit, la voix étranglée, « Que votre Altesse me pardonne, mais je ne puis. Cela non, j'en supplie votre Altesse, ce chien est mon compagnon, mon ami fidèle. Ah, tu refuses de m'obéir, je vais te donner tout à l'heure la correction que tu mérites. Quant à ton maudit chien, il va faire connaissance avec une balle de mon revolver. » Aubert, péniblement impressionné, essaya de s'interposer. « Cette bête n'a peut-être fait que se défendre. Et ce pauvre homme ?» Vladimir tourna vers lui son visage devenu dur, ses yeux sombres où paraissait une colère froide, plus effrayante que la violence. « Ne vous occupez pas de cela, mon cher, et si vous êtes trop sensible, retirez-vous. » Il mit la main dans une poche de sa tunique pour prendre son revolver. Mais ce geste ne s'acheva pas. Au seuil de la maison venait d'apparaître une jeune fille. Main jointe, elle s'avança vers le prince en disant d'une voix tremblante « Oh, Altesse, je vous en prie, ne le tuez pas, il est si bon. Il s'est défendu seulement, j'en suis sûre. » Vladimir l'avait enfin devant lui, cette Lilia qu'il voulait revoir. Dans la pleine lumière du jour, elle lui apparaissait plus charmante encore qu'il ne l'avait imaginée. Le tout jeune visage d'un parfait ovale, les traits si purs, le teint d'une blancheur satinée, qu'empourprait en ce moment une vive émotion, la chevelure blond foncé aux reflets fauves, tombant sur les épaules en deux nattes épaisses, et ses yeux, surtout, d'un brun chaud, velouté, où se lisaient à la fois la supplication, l'effroi, un reproche indigné. Oui, tout cela réalisait la plus merveilleuse figure de femme qu'eût jamais contemplée le prince de Wittenrath. Le sombre regard de colère s'éclaira subitement. Vladimir sourit en répondant aussitôt « Du moment où vous m'en priez, mademoiselle, je renonce à la punition, car vraiment, je serais impardonnable de faire pleurer d'aussi beaux yeux. » Les lèvres d'un dessin délicat, d'un rose vif de fleurs fraîches, balbutièrent un remerciement. Sous le regard qui s'attachait à elle, Lilia baissa un peu les paupières, au bord desquelles frémissaient des cils légers, plus foncés que les cheveux. S'adressant à M. de Creuilly, le prince dit à mi-voix « Quelle idéale beauté !» Une plus vive montée de sang au visage de la jeune fille lui révéla qu'il avait été compris. En se penchant sur l'encolure de son cheval, Vladimir demanda, avec le sourire qui donnait une particulière séduction à sa physionomie, « Vous connaissez le français ?»« Oui, Votre Altesse. » De nouveau, les yeux de Lilia se levaient sur lui. Il les revit, profond, mystérieux, inquiet, presque aussitôt caché de nouveau sous les paupières tremblantes. Pendant quelques secondes, il la contempla debout devant lui, fine, singulièrement élégante dans sa vieille robe noire, cornée au cou un étroit col blanc. Puis il la salua en disant de sa voix chaude, dans laquelle passaient d'impérieuses vibrations, « Au revoir, Lilia Vérine !» Et, faisant volter son cheval, il s'éloigna, suivi d'Aubert, passablement stupéfait. À quelque distance de là, Vladimir se tourna vers le jeune officier qui chevauchait près de lui. « Eh bien, mon cher, qu'en dites-vous? Il nous cachait le plus incomparable trésor, ce vieil Ofnik. Certes, qui est donc cette ravissante personne ?» Brièvement, le prince lui répéta ce qu'il avait appris de Strednov. Monsieur de Creuilly fit observer. « Elle est d'apparence très patricienne. Il doit y avoir en effet là-dessous quelques secrets. » « Que je vais m'arranger pour connaître. Cela me distraira pendant les quelques jours que je passerai encore ici. La charmante Lilia, jusqu'ici, a vécu en fraude sur mes terres. Il faudra maintenant qu'elle me donne tous les éclaircissements nécessaires. Je ne serai d'ailleurs pas trop sévère, comme vous pouvez le penser. En faveur de ses yeux magnifiques, je fermerai les miens s'il y a lieu. » Aubert pensa, « Voilà donc pourquoi il prolonge son séjour. » Et son cœur se serra de regret, de compassion. Elle avait un si beau regard, cet enfant, et elle était si jeune. Mais que pourrait son protecteur, le vieux garde, contre le maître qui tenait le sort de tous entre ses mains? Une vive indignation pénétrait l'âme d'Aubert contre cet homme dont l'orgueilleuse dureté venait de se montrer si bien en cette courte et pénible scène. Mais surtout, il songeait avec angoisse, avec une soudaine révolte de tout son être, que ce beau Wisengrass au cœur insensible, habitué à jouer sans pitié des femmes dont il était aimé, tenait à sa discrétion l'enfant charmante dont la beauté virginale venait d'émouvoir si profondément le jeune officier. À cet instant, M. de Creuil sentit qu'il commençait de détester son hôte. Hoffnick, à l'apparition de Lilia, n'avait pu retenir une sourde exclamation, tandis que la terreur décomposait son visage. Quand les deux cavaliers eurent tourné bride, il se précipita vers la jeune fille. « Qu'avez-vous fait, malheureuse enfant? Pourquoi êtes-vous venue? Ah, maintenant !» Elle s'écria, toute frémissante. « Je ne pouvais pas laisser tuer Terry. Oh, c'était affreux! Mon pauvre Terry !» Elle s'approcha du chien qui s'était recouché. À genoux près de lui, elle écarta doucement les poils englués par le sang. « Comme elle t'a abîmé, cette bête féroce! Pauvre vieux Terry! Son chien est aussi mauvais, aussi cruel que lui !» Des larmes montaient à ses yeux, pleines d'une douloureuse indignation. Hoffnick dit sourdement « Aussi mauvais, moins mauvais peut-être. Ne vous désolez pas, petite Barina, Terry sera vite guéri. » En lui-même, tout frissonnant, le vieillard ajouta « S'il n'y avait que cela !» Déjà, Lilia disparaissait à l'intérieur de la maison. Elle revint, apportant de quoi faire un pansement. Tandis qu'elle s'acquittait de sa tâche avec adresse, le chien ne la quittait pas de son regard souffrant. Hoffnick, la mine sombre, considérait cette scène en songeant désespérément. Que faire? Comment la sauver? Lilia, le pansement terminé, se redressa, puis se mit debout lentement. Cette brûlante rougeur qui était montée à ses joues tout à l'heure, sous le regard du prince, y demeurait encore. Elle dit, avec un accent de frémissante indignation, « Il ne lui suffisait donc pas de vous chasser d'ici, Nicolas Stefanovic, et de vous tourmenter au sujet de Madame Fabienne et de moi. Oui, vous aviez raison, il doit être sans pitié. » Elle s'interrompit, songea un moment, puis murmura, les lèvres un peu tremblantes, « Cependant, il a écouté ma prière. » Le vieillard la couvrit d'un long regard d'angoisse en disant tout bas, « Ah, ma pauvre petite !»